Après l'ancien bourg royal de Renfrew, situé sur la gauche du fleuve, les collines boisées de Kilpatrick se profilèrent, à droite, au-dessus du village de ce nom, devant lequel un Irlandais ne peut passer sans se découvrir. Là est né Saint-Patrice, le protecteur de l'Irlande. La Clyde, de fleuve qu'elle avait été jusqu'alors, commençait à devenir un véritable bras de mer. Dame Bess et Patridge saluèrent les ruines du Dunglass Castle, qui rappellent quelques vieux souvenirs de l'histoire d'Écosse. Mais leurs yeux se détournèrent de l'obélisque, élevé en l'honneur de Harry Bell, l'inventeur du premier bateau mécanique dont les roues troublèrent ses eaux paisibles. Quelques milles plus loin, les touristes, leur meuret à la main, contemplaient le château de Dumbarton, qui se dresse à plus de 500 pieds sur son rocher basaltique. Des deux cônes de son sommet, le plus élevé porte encore le nom de Trône de Wallace, l'un des héros des luttes de l'indépendance. À ce moment, un gentleman, du haut de la passerelle, sans que personne l'en eût prié, mais aussi sans que personne songeât à le trouver mauvais, crut devoir faire une petite conférence historique pour l'instruction de ses compagnons de voyage. Une demi-heure après, il n'était plus permis à un seul passager du Columbia, à moins d'être sourd, d'ignorer que très probablement les Romains avaient fortifié Dumbarton, que ce rocher historique se transforma en forteresse royale au commencement du XIIIe siècle, que, sous le bénéfice du pacte de l'Union, il compte parmi les quatre places du royaume d'Écosse qui ne peuvent être démantelées, que de ce port, Marie Stuart, en 1548, partit pour la France, dont son mariage avec François II allait la faire reine d'un jour, que là, enfin, Napoléon avait dû être renfermé en 1815, avant que le ministère Castlereagh n'eût résolu de l'emprisonner à Sainte-Hélène. « Voilà qui est fort instructif !» dit le frère Sam. « Instructif et intéressant !» répondit le frère Sib. « Ce gentleman mérite toutes nos éloges !» Et de fait, les deux oncles n'avaient pas cru devoir perdre un seul mot de la conférence. Aussi accordèrent-ils quelques marques de satisfaction au professeur improvisé. Miss Campbell, absorbée dans ses réflexions, n'avait rien entendu de cette leçon d'histoire courante. Cela, en ce moment du moins, n'était point pour l'intéresser. Elle ne donna même pas un regard sur la droite du fleuve, aux ruines du château de Cardross, où mourut Robert Bruce. Un horizon de mer, voilà ce que cherchaient vainement ses yeux. Mais il ne pouvait l'apercevoir avant que le Columbia se fût dégagé de cette succession de rives, de promontoires et de coteaux qui limitent le golfe de Clyde. D'ailleurs, le steamer passait alors devant la bourgade d'Ellensburg, Port Glasgow, les restes du château de New York, le presqu'île de Rosenheath. C'était ce que la jeune châtelaine voyait chaque jour des fenêtres de son cottage. Aussi se demandait-elle si le steamer ne naviguait pas sur les capricieux cours d'eau du parc. Et plus loin, pourquoi sa pensée aurait-elle été se perdre au milieu des centaines de navires qui se pressaient dans les bassins de Greenock, à l'embouchure du fleuve? Que lui importait que l'immortel Watt fût né dans cette ville de 40 000 habitants qui est comme l'antichambre industrielle et commerciale de Glasgow? Pourquoi 3 000 au-dessus eût-elle arrêté ses regards sur le village de Gourock à gauche, sur le village du Dunon à droite, sur les fjords dentelés et sinueux qui mordent si profondément les cordons littoraux du comté d'Argyll, échancrés comme une côte de Norvège? Non, Miss Campbell cherchait impatiemment des yeux la tour en ruine de Leven. S'attendait-elle à y voir apparaître quelques lutins? Pas le moins du monde. Mais elle voulait être la première à signaler le phare de Clock, qui éclaire la sortie du Firth of Clyde. Le phare apparut enfin, comme une gigantesque lampe au tournant de la rive. « Clock, oncle Sam !» dit-elle. « Clock, clock !»« Oui, clock !» répondit le frère Sam avec la précision d'un écho des Highlands. « La mer, oncle Sib !»« La mer, en effet !» répondit le frère Sib. « Que cela est beau !» répétèrent les deux oncles. On aurait pu croire qu'il la voyait pour la première fois. Il n'y avait pas d'erreur possible. À l'ouvert du golfe, c'était bien un horizon de mer. Cependant, le soleil n'avait pas encore dépassé le milieu de sa course diurne. Sous le 56e parallèle, 7 heures au moins devaient donc s'écouler avant qu'il ne disparût sous les flots. 7 heures d'impatience pour Miss Campbell. D'ailleurs, cet horizon se dessinait dans le sud-ouest, c'est-à-dire sur un segment d'arc que l'astre radieux n'effleure qu'à l'époque du solstice d'hiver. Ce n'était donc pas là qu'il fallait chercher l'apparition du phénomène. Ce serait plus à l'ouest, et même un peu au nord, puisque les premiers jours du mois d'août précèdent de 6 semaines l'équinoxe de septembre. Mais peu importait. C'était la mer qui se développait maintenant devant le regard de Miss Campbell. À travers l'entre-deux des îles Cambrai, au-delà de la grande île de Bute, dont le profil s'adoucissait d'une estompe légère, au-delà des petites crêtes d'Aisley Craig et des montagnes d'Aran, la ligne du ciel et de l'eau se traçait au large avec la netteté d'un trait fait au tire-ligne. Miss Campbell l'observait, tout entière à sa pensée sans prononcer une parole. Debout, sur la passerelle, immobile, le soleil lui faisait à ses pieds une ombre très raccourcie. Elle semblait mesurer la longueur de l'arc qui le séparait encore du point où son disque éclatant irait se tremper dans les eaux de l'archipel hébridique. Pourvu qu'à ce moment le ciel, si pur alors, ne fût pas obscurci de vapeurs crépusculaires. Une voix tira la jeune rêveuse de sa rêverie. « Il est l'heure !» dit le frère Sib. « L'heure ? Quelle heure, mes oncles ?»«
L'heure du déjeuner !»
dit le frère Sam. « Allons déjeuner !» répondit Miss Campbell.